Ce matin, on va regarder le texte dans Jean 6, 1 à 21, et on va pas passer le texte pour décortiquer chaque verset, mais voir qu'est-ce que Dieu voulait nous apprendre à travers ces deux histoires-là. Et pour moi, quand j'ai eu fini de regarder ce texte-là et regarder l'évangile de Jean, le titre qui m'est venu, c'est « Ne vous inquiétez pas ». C'était merveilleux de voir les gens qui allaient dans ce sens-là aujourd'hui. C'est possible en 2025 de ne pas vivre dans l'inquiétude. Pourquoi c'est possible aujourd'hui de ne pas s'inquiéter? Pourquoi le chrétien devrait être calme devant tout ce qui se passe aujourd'hui? La plus grande vérité, de mon point de vue, de l'Évangile, c'est que Dieu devient notre Père lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu aurait pu nous sauver et pas devenir notre Père, être juste notre Dieu. Et ça aurait fait qu'il y aurait eu une distance. Dieu, en nous sauvant, il veut devenir notre Père dans la réalité quotidienne. Dieu veut prendre soin de nous. Et lorsqu'on regarde l'Évangile de Jean, il faut le voir à partir de ce point de vue-là. Dieu veut être votre Père céleste. Dieu veut être celui qui prend soin de vous. Et si ça devient une réalité, l'inquiétude va finir par s'évanouir, disparaître. Il y a trois grandes vérités dans le livre de l'Évangile de Jean. La première, c'est de révéler Jésus-Christ comme étant Dieu. Tout l'Évangile de Jean veut démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Je vous invite à tourner dans Jean 1, versets 1 à 3 et 14. Jean 1, versets 1 à 3 et 14. Il est dit: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Verset 14. Jésus-Christ n'est pas un humain comme un autre qui est venu sur terre. C'est le Fils de Dieu, celui qui a tout créé. Donc, premier sujet de se réjouir et de faire confiance à Dieu, c'est qu'il est le Créateur de toutes choses. Dieu nous connaît mieux que tous. Dieu me connaît même mieux que je me connais. Des fois, on se ment à nous-mêmes. On s'illusionne. Avec Dieu, il n'y a pas d'illusion. C'est la pleine vérité. Deuxième grande vérité, dans Jean 1,12, il nous est dit: « Mais tous ceux qui l'ont reçu, la vérité, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes des enfants de Dieu, la parole de Dieu le certifie. Si vous croyez en l'œuvre de Jésus-Christ, vous n'êtes pas simplement un humain sauvé, vous êtes maintenant un enfant de Dieu régénéré et co-héritier de Jésus-Christ. Et c'est important, si on veut suivre le Seigneur, d'être conscient de la valeur que nous avons en Jésus-Christ. J'aime mes enfants comme la prunelle de mes yeux et je suis imparfait. Dieu est parfait et même comme son Fils, comme vous, les filles, vous des filles. Le Seigneur nous aime et le Seigneur veut qu'on comprenne qu'on est enfant de Dieu. Jésus, dans Jean 20, 17, nous dit: « Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus-Christ, dans son dernier discours aux apôtres, avant de quitter la terre, il leur rappelle qu'ils sont fils et filles de Dieu et que Dieu est leur Dieu, le même Dieu que lui a. Et ça doit être le fondement de notre compréhension de l'Évangile. Dieu nous sauve pour qu'on devienne ses enfants. Et Jean 20, 31 finit la troisième pointe de l'Évangile de Jean qu'il faut se rappeler. « Mais ces choses ont été écrites, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On doit croire que Jésus-Christ est né pour mourir à la croix. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs qui méritions une condamnation pour nos péchés. Et Jésus-Christ a payé toute la dette pour qu'aujourd'hui, on soit fils et fille de Dieu. Comme je disais, moi je suis un père imparfait, tous ceux qui ont des enfants, vous êtes des imparfaits, même si vous aimez vos enfants, le mieux que vous pouvez. Tout ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'il y a le bien. On veut leur donner le nécessaire, on veut même leur donner plus, on veut tout le temps que nos enfants réussissent mieux que nous on a réussi. C'est la nature humaine qui fait ça. Essayez de vous imaginer, si nous qui sommes imparfaits, nous qui sommes pécheurs, nous qui manquons de puissance, on fait tout pour nos enfants. Quand le Dieu céleste, saint, parfait, tout puissant, dit « Je suis ton père, inquiète-toi pas », on peut se fier là-dessus. Un enfant d'un an, qui a des parents juste normaux, il peut pleurer pour faire connaître ses besoins. Il n'est pas dans l'inquiétude. Il sait que le parent va prendre soin de lui. Et Dieu, c'est ça qu'il veut provoquer dans notre cœur. Et tout l'Évangile a pour but de démontrer cette vérité-là. Si on devient enfant de Dieu, Dieu va veiller sur nous. C'est ce qu'on va voir ce matin. J'aimerais que vous tourniez cependant, avant de commencer le texte, Romains 8, 32, qui dit, en passant, pour moi, le Romains 8 est sûrement le chapitre, un des plus beaux chapitres, sinon le plus beau chapitre de la parole de Dieu, et le verset 32 est le verset le plus incroyable à mon sens. Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Donc, Christ est mort pour nous, Dieu l'a livré pour nous. Comment ne nous donnerait-il pas toute chose en lui? Si on est conscient de ce que Dieu a donné pour qu'on soit sauvé, il a donné son propre Fils, il a donné ce qu'il y avait de plus cher, pourquoi Dieu nous priverait du reste? Pourquoi Dieu nous priverait de nous faire du bien? Pourquoi Dieu ne nous donnerait pas la paix à notre esprit? Ici, je ne parle pas d'évangile de richesse, tout ça. Dieu ne nous promet pas la richesse, ne nous promet pas les maux. Ça va nous arriver. Mais dans tout ça, il nous promet une chose. C'est qu'il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Il nous donne une joie qui surpasse tout ce que le monde peut nous promettre. Pourquoi? Parce qu'en donnant son Fils, il nous garantit sa protection éternelle. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 21. On va voir deux histoires que la plupart du monde connaissent bien. Essayez de la voir maintenant, comment Dieu voulait montrer à ses apôtres qui il était et comment Dieu prend soin des gens. On peut regarder un texte de plusieurs manières, mais ce matin, je vous demande, faites l'effort. Regardez ce texte-là en disant, qu'est-ce que Dieu voulait démontrer aux apôtres pour la suite des événements? Parce que nous, on est 2000 ans plus tard. S'il n'y a pas une suite à ces événements-là, c'est un peu vain. Mais il y a une suite à cette histoire-là, c'est ça qu'on va regarder ce matin. Jean 6, 1 dit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer des Galilées. » Et après ça, c'est au chapitre 5, il essayait de démontrer pourquoi il était Dieu. Pourquoi il était le Fils de Dieu, puis c'était contesté. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver. Car il savait qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, dont 5 pains d'orge après tout ce qu'ils eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait dit, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau de la montagne. Lui seul. Arrête ici pour commencer. Quand on regarde le miracle des pains, c'est fabuleux, là. On part de quelques morceaux de pain, deux poissons, puis il nourrit. Mais c'était quoi l'objectif? C'était pas juste de nourrir les gens. Jésus savait, puis le texte est clair, il ne le suivait pas parce qu'il aimait Jésus-Christ. Il ne suivait pas parce qu'il croyait en Jésus-Christ. Il suivait parce qu'il faisait des miracles. Il suivait Jésus parce que Jésus pouvait leur apporter quelque chose. Ça n'avait pas encore touché leur âme. Et Jésus s'adresse aux disciples. Et ce bout-là est différent des autres évangiles qui ne le mentionnent pas. C'est volontairement que Jésus-Christ provoque cette situation-là pour les mettre à l'épreuve. Le but, c'était de mettre les apôtres à l'épreuve de leur foi. Comment ils voyaient Jésus-Christ? Comment Jésus-Christ pouvait prendre soin des gens? Et on voit, l'autre, il dit, « Hey, même si j'avais 200 deniers, je ne pourrais pas toutes les nourrir. » Et pourtant, Jésus-Christ ne répond pas à cette affirmation-là. Il la laisse faire. Un autre arrive, « Oui, mais il y a deux poissons là, ben, on ne peut pas nourrir les gens avec ça. » Et Jésus, quoi, dit? « Calmez-vous, asseyez-vous, puis je vais pourvoir. » Et Jésus pourvoit. Combien de fois dans nos vies, on est placé dans une situation où le Seigneur nous met à l'épreuve, où on pense qu'on n'a pas les solutions devant nous, où on pense qu'on n'a pas les capacités de passer à travers ce qui est mis devant nous. Et le Seigneur nous dit, « Calmez-vous, asseyez-vous, et regardez-moi agir maintenant. Regardez qui je suis. Je peux pourvoir à vos besoins les plus primaires dans vos vies. » Aujourd'hui, surtout dans des pays comme le Canada, on prend pour acquis que manger, c'est simple. Aujourd'hui, on regarde, là, c'était des poissons puis du pain. Aujourd'hui, regardons ce qu'on met sur nos tables. On va dans l'abondance, puis on se plaint que l'épicerie coûte cher. On se plaint qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Et le Seigneur dit, non, non, moi, je pourvois à vos besoins. Mais avoir nos besoins, c'est les besoins que Dieu constate que c'est des besoins. Pas ce que nous, on désire. Ce que le Seigneur désire, on va voir ça tout à l'heure. Et le Seigneur se met à bénir. Il distribue la nourriture. Attardez-vous au verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, donc le Seigneur a comblé le besoin dans la vie des gens. Il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Si on fait un parallèle avec l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait la manne, c'était le contraire, c'était laisser mourir ce qui restait. Demain, je vais bénir. Non, non. Afin que rien ne se perde. Quand le Seigneur nous bénit, il ne veut pas que ça se perde. Il veut que ça porte des fruits. Il veut qu'il y ait une suite à la bénédiction. Et souvent, quand on devient anxieux, c'est qu'on oublie que le Seigneur est en action, puis il va toujours rester de la bénédiction. Il y a toujours une suite à la bénédiction de Dieu. Il faut la voir, il faut la saisir, il faut la garder. Il ramassa donc et remplit 12 paniers et restait 5 pains d'orge après qu'il eut tout mangé. Donc, de quelque chose de minime, la bénédiction en fait qu'il y avait 12 paniers, 12 fois plus grand que ce qu'il y avait eu à la base. Et le Seigneur fait la même chose pour nous aujourd'hui. Quand il arrive des situations difficiles, des épreuves, le Seigneur nous bénit au-delà de ce qu'on pense et il reste toujours quelque chose de plus. Il faut regarder à Dieu et voir comment Dieu agit. La fin du verset 14, il est dit que Jésus est resté seul. Donc, encore là, on va voir, il provoque une situation. Normalement, il serait parti avec les apôtres. Donc, ce qui va arriver était dans un plan très, très, très précis, encore une fois, de démontrer quelque chose aux apôtres. Verset 16 du chapitre 6. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant monté dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Dieu est en contrôle de cette tempête qui est en train de prendre forme. Après avoir remis environ 25 à 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Donc, ils étaient inquiets. Il y avait une crainte. Si on avait été là, on aurait eu la même crainte. Essayez de vous imaginer, c'est un bateau, c'est une chaloupe, le vent, la mer frappe le bateau, puis vous voyez quelqu'un qui marche sur l'eau. On n'est pas très habitué à ça, hein? Donc, l'inquiétude était normale. Et là, Jésus dit au verset 20, « Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et ça, c'est l'attitude que le Seigneur veut qu'on adopte. Quand il arrive la tempête dans nos vies, il veut qu'on tourne les regards vers lui. On va l'entendre dire, « Je suis là, n'ayez pas peur, c'est juste moi. » Verset 21, « Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda le lieu où il allait. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » La mauvaise connaissance de Jésus-Christ et de Dieu nous amène des fois à fabuler, même si on est des croyants. Les apôtres étaient habitués de connaître Jésus. Ils travaillaient avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus. Et pourtant, ils ont associé sa présence à un fantôme, une présence quelconque. Juste pour dire que il faut s'assurer qu'on connaît bien le Seigneur Jésus-Christ. Et la connaissance qu'on a de Dieu va nous assurer une vie de paix et de quiétude, et non d'inquiétude et de tourment. Les disciples n'étaient pas rendus là. Tournez dans Matthieu 14, juste pour voir un complément de la même histoire, l'histoire avec Pierre. Matthieu 14, 28 nous dit, Pierre qui voit Jésus sur l'eau, il dit, Pierre lui répond, Seigneur, si c'est toi, donc si tu n'es pas un fantôme, il est toujours dans l'idée que c'est un fantôme qui est devant lui, là. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux et s'en alla vers Jésus. Donc, Pierre regarde à Jésus, débarque, puis il est capable de marcher sur l'eau. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Lorsqu'il a arrêté de regarder à Jésus, puis qu'il regardait à la tempête, qu'est-ce qui est arrivé? Il commença à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus lui tendit la main, le saisit. Il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement fils de Dieu. » Vous savez, dans notre vie, on va traverser des tempêtes comme Pierre a eu à traverser sur cette eau-là. On va croire qu'on va s'enfoncer. Mais si on regarde à Jésus-Christ, on regarde à ses promesses, puis qu'on se souvient que Dieu l'a donné pour notre vie, la tempête va finir par arrêter. On va être capable de faire suivre le chemin de Dieu dans la tempête, sans s'enfoncer, sans s'éloigner de Dieu. Donc, tout le passage se résume à deux miracles, mais le miracle n'était qu'objet pour que les apôtres apprennent une vérité profonde. Dieu est en contrôle de tout. Il est en contrôle de nos besoins, la nourriture. Dieu est en contrôle de tout ce qui est la nature alentour de nous, de tout ce qui se passe. Le Seigneur est en contrôle de ça. Le Seigneur a provoqué ces deux choses-là pour leur rappeler qui il était et que tout ce qui suivrait après son départ, ce n'était pas une vie facile. Les apôtres ont été persécutés, ont été maltraités. Et pourtant, on les voit dans Actes être heureux et comblés. Pourquoi ils avaient appris à tourner les regards vers Jésus-Christ et à lui faire confiance. Essayez de vous imaginer pour vos besoins naturels. Souvent, les gens sont inquiets pour ça. Le problème, pourquoi il y a plus d'anxiété en 2025 qu'il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans? L'humain a eu la capacité de dire qu'un besoin primaire qui était avant se limitait à être nourri, logé, puis avoir une famille. Quand je dis avoir une famille, c'est pas dire un mari et des enfants, ça va plus large. Papa, maman, la famille qui nous entoure. Aujourd'hui, les besoins primaires, c'est, oui, la nourriture, mais l'abondance de nourriture. Faut que j'aie le choix. Si on me dirait, tu vas manger du pain tous les jours puis du poisson, je dirais que je manque de l'essentiel aujourd'hui. Et pourtant, Dieu dirait, bien, tu as l'essentiel. Aujourd'hui, c'est pas juste une famille qu'on veut. On veut une maison, on veut deux autos, on veut tout ce qui vient avec, sinon, on n'a pas l'essentiel. Notre téléphone cellulaire est rendu essentiel. La plupart du monde enlevons votre téléphone pendant une semaine, puis on dit, votre téléphone, vous n'y avez plus accès, là. Et il y en a une gang qui vont faire une dépression. On a créé des besoins essentiels. Et pourtant, le Seigneur nous rappelle que l'essentiel, c'est de suivre le Seigneur. L'essentiel, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui l'anxiété est à son comble? C'est justement, on a enlevé Dieu, puis on ne veut plus être instruit par Dieu. Il y a trois raisons que la parole de Dieu nous dit pourquoi l'homme vit cette anxiété-là. On voit que, justement, les besoins sont essentiels, mais on voit que... prenez un homme comme David dans le psaume 32, verset 1 et plus 2. Il nous parle du péché. La première raison pourquoi l'homme a de la difficulté et vit le tourment, c'est parce qu'on nie l'importance du péché dans la vie de l'humanité, dans notre vie personnelle et dans la vie des autres. David disait, dans le psaume 32, 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Verset 3, soulignez-le. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il n'y a pas juste effacé le péché, il a effacé la peine qui vient avec le péché, l'inquiétude qui vient avec le péché. Et tant que l'humanité va rejeter le salut en Jésus-Christ, le péché va rester présent. Et de plus en plus, l'homme va devenir inquiet de tout ce qui arrive sur cette terre. Mais ça nous touche à nous, les premiers. On a beau avoir donné notre vie à Jésus-Christ, si on ne vit pas en conformité maintenant avec notre foi, puis que le péché s'attache à nous, on va vivre la même inquiétude, les mêmes tourments. Il faut qu'au quotidien, on confesse nos péchés pour marcher dans la sainteté. Il faut aussi avoir cette assurance que Dieu va pourvoir à nos besoins. C'est la première chose. On vit dans une société indépendante où on veut être les héros de nos vies. Pourquoi les jeux vidéo prennent tant d'espace? Les jeunes, ça, maintenant, font partie du jeu. Ils sont dedans. C'est les héros, c'est les autres qui font l'histoire. Mais on fait la même chose avec nos vies. On a de la misère à laisser la place à Dieu d'être le héros de notre vie. D'être celui qui fait qu'on réussit dans la vie. Si j'ai une bonne job, bien, c'est parce que Dieu a pourvu à ce que j'ai l'intelligence, les capacités de le faire. Je ne devrais pas m'enorgueillir de ce que je suis devenu. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Ça, c'est la cause principale de l'anxiété d'aujourd'hui. C'est que l'homme veut porter sur ses épaules la réussite. Et quand l'homme veut porter la réussite sur ses épaules, il va récolter l'anxiété. Parce qu'il ne sera jamais satisfait à 100% de ce qu'il vit. Il y a toujours des choses qu'on voudrait améliorer. Moi, j'aime bien jouer au golf. Et la fois où j'ai joué la meilleure game de ma vie, ça m'a enlevé le goût de jouer au golf, parce que je me suis dit, plus jamais je serai capable de jouer ce game-là. Et j'ai arrêté quasiment de jouer au golf les années qui ont suivi. J'avais atteint. Mais c'est de la pure orgueil, hein? Parce que je me suis dit, je vais être déçu les autres fois que je vais jouer. Je vais perdre le goût de jouer, parce que j'arriverai pas au même résultat. Les résultats avaient pris la place à laisser le plaisir d'être dans ce que je faisais. Et souvent, c'est ce qui nous arrive dans notre propre vie. On veut tellement être en contrôle et être celui qui est responsable de notre bonheur qu'on ne donne pas cette gloire à Dieu-là dans qu'est-ce qu'on est bon. On veut que Dieu nous aide dans nos faiblesses, mais dans nos forces. Hey Dieu, laisse-moi aller, je suis bon là-dedans. Moi, tu m'as donné tel don de Dieu, laisse-moi le mettre en pratique. Tu m'as donné tel talent, Seigneur, laisse-moi tranquille, je suis capable de le faire. Et vous savez, quand on fait ça, le Seigneur met sa main pesante sur nous. Comme il a fait avec David. Tu veux t'enorgueillir, tu veux penser que tu es arrivé, je vais te montrer que tu n'es pas rendu là, c'est grâce à moi que tu es rendu où tu es rendu. Et le Seigneur veut qu'on confesse notre orgueil. C'est sûrement le péché le plus dur à se débarrasser dans nos vies. On est tous orgueilleux dans un domaine. Il y en a qui ont de l'humilité dans certaines choses, dans d'autres choses, ils vont plus être orgueilleux. Et c'est pour ça que Philippiens nous dit, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il a tout abandonné ce qu'il y avait au ciel pour venir vivre la vie d'un simple homme. Moi, c'est un des versets qui me donne des frissons dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a voulu paraître comme un simple homme. L'humain aimerait être un héros. Et quand on apprend que ce que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on soit simplement des simples hommes à son service, que Dieu peut travailler nos cœurs et nous enlever l'anxiété. Et troisièmement, qu'est-ce qui fait que l'anxiété a lieu aujourd'hui? Notre manque de connaissance du seul et véritable Dieu. On voit partout dans les épîtres de Paul, dans les épîtres de Pierre, de Jacques et de Jean, où il nous appelle à améliorer notre connaissance du Seigneur. Regardez 2 Pierre 1, Jésus-Christ, Pierre commence à dire, « Vous avez la même foi que moi, mais faites tous les efforts pour ajouter à votre foi la charité, la bonté, etc. » Pourquoi? Parce que ça ne vous gardera pas stérile pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Le but de faire des efforts, ce n'est pas juste de dire « je vais devenir meilleur », c'est de mieux connaître Dieu. Et ça, ça doit être le cœur de notre préoccupation. Connaître Dieu chaque jour de mieux en mieux. Philippiens 4,6 nous dit « ne vous inquiétez de rien, mais que en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Comment ne pas avoir d'anxiété? Faites connaître vos besoins à Dieu. Avec quoi? Avec des actions de grâce, donc de la reconnaissance, avec des supplications. On ne s'adresse pas à notre chum quand on s'adresse à Dieu. On s'adresse au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Il faut avoir ce respect-là et de voir que lui peut accomplir ce que nous ne nous pouvons pas accomplir. Et là, Dieu va calmer notre cœur. Matthieu 6, 31-32 nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses. » Jésus-Christ a dit que c'était les païens. Il était gentil avec nous, hein? On est pas mal comme ça, nous autres aussi, hein? Fait que, il ne faut pas s'inquiéter, parce que Dieu va pourvoir. C'est une promesse et Dieu respecte ses promesses. Psaume 23:1 dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David connaissait son Dieu, marchait avec son Dieu. Le défi du croyant, c'est d'arrêter de vouloir connaître sur Dieu, mais de connaître Dieu. Il y a une différence entre connaître sur Dieu, c'est que je suis capable de dépeindre Dieu. Je suis capable de faire une image de Dieu. Je suis capable de mettre Dieu dans des projections. Ça ne veut pas dire que je suis capable de marcher avec Dieu. Connaître Dieu, ça veut dire que je sais que je vais marcher avec lui. Je vais marcher à sa suite. Quand Israël est sorti d'Égypte, il suivait la nuée. Il suivait la langue de feu de la nuit. Il connaissait Dieu, il marchait avec Dieu, il voyait Dieu agir dans une marche quotidienne. La différence entre connaître Dieu et connaître sur Dieu, c'est comment on marche avec Dieu. Plus je vais marcher avec Dieu, plus je vais connaître Dieu. Mais je vais connaître Dieu pour les bons motifs, pour l'adorer, le louer et toujours être à sa présence. Jamais oublier, Dieu n'est pas un instrument dans nos mains, nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Et ça, ça fait toute la différence. Mais rendu là, ça n'empêche pas que la vie n'est pas facile pour autant. Il y en a qui passent des épreuves difficiles, puis on ne veut pas banaliser. Si vous regardez la vie du prophète Jérémie, c'est une vie difficile. Au-delà de tout ce que moi je pourrais vivre, Jérémie a vécu pire que ça. Maltraité par ses concitoyens, pas par des ennemis, là. Par les gens qui auraient dû prendre soin de lui, il était maltraité. On l'a mis dans une citerne des jours et des jours pour le faire souffrir. Et dans Lamentations 3, Jérémie, tous les premiers versets jusqu'au verset 21, il crie à Dieu, « Dieu, tu fais quoi? Comment ça se fait que ça me frappe tout ça? Comment je peux garder la foi en toi? » C'est lui-même qui donne la réponse au verset 21. Tournez dans Lamentations 3, 21. Oui, on peut souffrir. Oui, on peut sentir que c'est injuste, qu'est-ce qu'on vit. Mais, voici le verset 21 de Lamentations 3. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Une décision. Jérémie s'arrête et prend une décision. « Voici ce que je veux faire. » Ce qui me donnera de l'espérance. Dans le désespoir, il va chercher son espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Pour qui espère en lui, pour qui l'âme le recherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et ça, c'est sûrement la plus grande leçon. Un, c'est une décision de mettre notre confiance en Dieu. Et arrêtons de chialer, gardons le silence. Les Québécois, on est forts pour chialer. Quand ça ne fait pas notre affaire, on le fait savoir. Et le Seigneur nous dit... Prenez à vous taire un petit peu, puis à regarder ce que je fais chaque jour. Même quand ça va mal, je t'ai donné souffle de vie aujourd'hui. Même quand ça va mal, je te nourris aujourd'hui. Même quand ça va mal, le soleil se lève aujourd'hui. Même quand ça va mal, la pluie tombe quand vous en avez besoin. Sachez que je suis l'Éternel et que je veille sur vous. Gardez le silence. Si on a à parler, c'est en prière, en supplication devant l'Éternel quand ça va mal. De se plaindre de notre sort n'est pas une solution pour Dieu. De décider de faire confiance à Dieu en avouant que c'est difficile. Dieu ne dit pas, quand vous traversez une période creuse de votre vie, dites à tout le monde que tout va bien parce qu'il faut que vous dites que ça va bien. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle à faire. Ça va mal, on est capable de dire ça va mal. Mais j'ai décidé d'espérer en l'Éternel. J'ai décidé de voir ses bénédictions chaque jour. Ma mère a eu une vie très difficile. Jeune, elle a eu 11 enfants, pas facile non plus. Et pourtant, je ne l'entendais jamais se plaindre. Les enfants, on se plaignait pour elle quand on la voyait. On trouvait ça dur, ce qu'on voyait notre mère vivre. Et je n'ai jamais vu quelqu'un se réjouir autant pour quand les autres réussissaient. Elle, sa vie était difficile, ce n'était pas une réussite. Mais quand un de ses enfants réussissait quelque chose, elle la réjouissait tellement. Elle avait décidé de tourner les regards à la bonne place. Le Seigneur, c'était ça qui nous appelle. Et ça veut dire quoi décider de suivre le Seigneur? Psaume 37, 3 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fait paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. » Quand le Seigneur dit « Fais de l'Éternel tes délices », il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que nos désirs vont devenir les désirs de l'Éternel. Ce n'est pas mes désirs égoïstes que le Seigneur va fournir. Le fait que je contemple Dieu, que je connais mieux Dieu, que je respecte Dieu, ce que je vais vouloir dans ma vie, c'est la volonté de Dieu. Et si ce que je veux dans ma vie, c'est la volonté de Dieu, ben, le Seigneur va me le donner. Où il y a un bris de confiance envers Dieu, c'est quand on veut que nos désirs à nous passent devant ceux de l'Éternel. Là, le Seigneur dit, « Oh, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la phrase. Commence par faire de moi tes délices, puis je vais te combler. » Pas « je vais te combler pour que tu fasses de moi tes délices. » Dieu n'est pas un génie. Dieu n'est pas là pour donner tout ce que nous, on veut. Il est là pour accomplir sa volonté dans nos vies, et c'est ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Et ça reste encore une décision où on veut aller. Est-ce qu'on choisit de faire confiance à Dieu? Pour conclure, ayons cette conviction. On vit des épreuves, selon Jacques 1, 2 à 4, c'est uniquement dans le but de nous perfectionner pour être capable de faire face à tout ce qui peut nous arriver, pour nous amener à la sainteté. Dieu nous envoie des épreuves pour notre bien. Et je sais que c'est contraire à ce que la société nous dit maintenant. Aujourd'hui, on voudrait fuir les épreuves, mais les épreuves vont toujours être là. Et Dieu est en contrôle des épreuves qui nous arrivent. Mais lorsqu'on décide de tourner les regards vers le Seigneur, de marcher avec lui et de comprendre qu'il est notre Papa céleste, s'il a donné son Fils pour nous, pourquoi ne nous donnerait-il pas le reste? Dieu a donné ce qui avait de plus cher pour nous. Pourquoi il ne prendrait pas soin de nous pour le reste? C'est cette conviction profonde qu'on doit adhérer à notre cœur. Dieu n'est pas simplement un Dieu lointain. Dieu est mon Père. Dieu veille sur moi. Dieu veut que je sois co-héritier de son Fils. Dieu veut que je sois saint comme lui, il est saint. Et pour ce faire, oui, il va m'emmener, il va me faire éprouver des choses. Pour ça. Et si vous avez eu des enfants qui soient, fassent de la musique, de la natation, du sport, n'importe quoi, pratiquer, c'est une épreuve pour un enfant. T'sais, persévérer, c'est une épreuve. On les oblige à persévérer. On les oblige à pratiquer. On les oblige à faire des choses qu'ils n'aiment pas à la première vue. Puis 5, 10, 15 ans plus tard, ils reconnaissent que c'était pour mon bien. Ça m'a aidé à devenir meilleur. Et c'est ça que le Seigneur fait dans nos vies. Ce que je nous encourage à être, vous et moi, c'est d'être maintenant des enfants de Dieu qui respectent, qui aiment leur Père, qui veulent obéir à ce Dieu parfait et saint. Le Seigneur bénisse sa parole.